Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Marie-Noëlle Tranchant, bonjour.
Bonjour.
Bernard Mignoni, bonjour. Dominique Borne, bonjour. Trois chroniqueurs, trois films. Nous allons parler du tableau volé, une affaire de principe et jusqu'au bout du monde. Vous avez remarqué que lorsque j'annonce en début d'émission trois films, on n'en fait que deux parce qu'on est trop bavard. Donc là, on va essayer d'aller jusqu'au troisième. Le tableau volé, donc c'est un film de Pascal Bonitzer avec l'excellente Axel Lutz, toujours, Léa Drucker, formidable, et Nora Hamsaoui, qui est parfaite. C'est l'histoire d'un commissaire-priseur dans la célèbre maison de vente Scotties, voilà le clin d'œil est fait, et qui reçoit un courrier pour lui parler d'une toile d'Egon Schiele qu'on aurait découverte à Mulhouse chez un ouvrier. Alors il est un peu sceptique, il se rend sur place et puis il doit se rendre à l'évidence, le tableau est authentique, c'est un chef-d'œuvre disparu depuis 1939 et qui avait été spolié par les nazis, évidemment. Alors c'est le début des emmerdes, comme toujours, Alec Lutz est parfait, je vous l'ai dit, et Laura Drucker, toujours juste, on écoute la bande-annonce et on en parle après.
Un commissaire-priseur, c'est comme un chirurgien esthétique, il faut lui faire confiance.
Maître German. Elle demande une expertise pour authentifier un Egon Schiele que possède un de ses clients.
99% c'est un fou.
Le garçon est ouvrier chimiste.
Ouais, c'est presque un gosse. Ils sont morts de trouille.
Bonjour.
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 Il est vrai. Vous l'estimez à combien?
10.
12 millions.
Maman!
On le croyait détruit, il a disparu en 1939. Là, quand ils ont passé leur belle jeunesse aux anciens propriétaires, ils bossaient avec la police allemande.
Il y a un mot qui explique tout, c'est dégénéré.
L'art dégénéré.
Moi, je veux pas de ce tableau. Enfin, je veux pas avoir de sang sur les mains.
Ce tableau, il l'a acquis en toute bonne foi. Il a droit à quelque chose.
On va essayer.
Je suis sûre que vous pouvez faire mieux que ça.
Que disent les héritiers?
You found it.
I would stake my life. It's genuine.
I am one of 9 legal heirs. Would your young man consider being the 10th?
Rochebourg, ce nom vous dit quelque chose? Il m'a dit que le tableau va très mal se vendre, il faut pas qu'il aille aux enchères.
Cette vente doit pas nous échapper, c'est crucial.
Oui, c'est crucial.
Mais c'est quand même à nous de décider de comment se vend ce tableau. Nous allons démarrer pour ce tableau à 8 millions d'euros.
Bien du champagne.
Je trouve que le monde de l'art est remarquablement reconstitué.
Oui. Alors, moi j'aurais appelé ça le tableau prétexte, parce que finalement, ce qui intéresse toujours Bonitzer, c'est moins l'histoire que les personnages. Mmh. Hein, il se fixe sur les personnages dont il multiplie, les démultiplie. Les intrigues se passent comme ça, de l'un à l'autre, des mini-intrigues, hein, entre le commissaire-priseur, son assistante, son ex-femme, le jeune propriétaire du tableau, qui est un ouvrier, et sa mère. Voilà, on passe de l'un à l'autre, et chacun présente un fragment d'histoire auquel on essaie de s'intéresser. On ne s'y intéresse pas toujours, tout de même. Et autour d'un tableau d'Egon Schiele, que l'on voit très peu, d'ailleurs. C'est un petit peu dommage, là-dessus.
C'est un grand format. Hein.
Oui. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un échange à propos de l'art, sur des considérations sur l'art. On n'a pas ça du tout. On a uniquement des personnages qui s'ajoutent, qui se démultiplie. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. On aurait pu s'interroger sur la provenance du tableau, mais non, là, il y a uniquement la patte humaine qui intéresse Bonitzer. Elle est légèrement malaxée, mais ça ne nous donne pas forcément envie de connaître ses personnages, même, sauf peut-être l'ex-femme de Drucker, oui, qui est pas mal.
Ah ben, l'ex-femme est très, très,
oui, elle est très bien. Présente. Elle est en vogue en ce moment, elle est dans plusieurs films. Voilà, l'art est un hasard, mais qui se monnaie, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on comprend. Et ici, le jeune ouvrier, alors ce qui est intéressant, c'est le parallèle entre le jeune ouvrier, qui est dans un milieu totalement différent, et le commissaire faisait le monde de l'art, qui est beaucoup plus snob, beaucoup plus intellectuel.
Cynique.
Voilà, et beaucoup plus cynique aussi. Alors, il y a une surprise, c'est voir Alain Fanfort, qui s'en sort pas mal dans le rôle d'un paternel inattendu. Il y a ce monde policé et délétère face à ce petit jeune assez primate qui a une fortune entre les mains. C'est ça, le seul intérêt, c'est ça. C'est moral et finalement pas forcément très intéressant. Il y a vraiment que le rapport de ces personnages, parfois ambigu, parfois... mais moi, j'ai pas été convaincu du tout. Je m'attendais à un autre film. Alors ça arrive parfois quand on aime le cinéma. On va voir un film en s'attendant à quelque chose, puis on voit autre chose.
Voilà.
Donc on est déçu d'être déçu.
Oui. Voilà.
Donc j'ai été un peu déçu d'être déçu.
Très bien. Marie-Noëlle.
Alors, Dominique disait à juste titre le tableau prétexte, parce qu'en effet, cette grande œuvre d'art n'est qu'un prétexte. Moi, je dirais le tableau du marché de l'art, qui est très bien raconté dans ses plus diverses étapes, avec des ramifications, mais toujours autour de l'argent. De l'art, il ne sera guère question. C'est le point
le plus...
Ce
que nous disait déjà Zola dans l'œuvre.
Mmh. Oui, c'est vraiment le point le plus frappant. C'est très bien raconté, les histoires de comment faire monter des enchères, comment mettre à prix, comment... Tout tourne autour de l'argent.
Ah ben oui, c'est le monde de l'art.
C'est le marché de l'art.
Absolument.
Et non pas le monde de l'art. Donc c'est un tableau du marché de l'art. À part ça, qui est très précis et très intéressant quand même à voir fonctionner, le film a du charme. Parce que les personnages, parce que les interprètes, parce que les situations, voilà. J'ai aimé, pour ma part, ce joli portrait de jeune homme simple, comme on dit, avec mépris, alors que c'est un tellement beau qualificatif. Et j'ai trouvé que c'était qu'il avait une grâce vraiment exquise dans sa spontanéité, sa droiture, sans...
Ah bah en face de l'autorité du cynisme d'Alec Luce, oui.
Oui, oui, oui. Et c'est très joli parce qu'il ne se laisse pas avoir ni décourager. Il est vraiment tel qu'en lui-même. Ça, je trouve ça très élégant. C'est mon préféré, je dois dire. Mais c'est vrai que Alex Lutz et Léa Drucker font un couple formidable. La jeune stagiaire, pour moi, beaucoup moins convaincante et intéressante. Bon, voilà.
Bernard.
Oui, je trouve mes camarades assez indulgents parce que ça n'est quand même pas... Et c'est loin d'être exceptionnel. Je suis tout à fait d'accord avec Dominique sur l'interprétation, il n'y a rien à dire. Et sur la performance d'Alain Chamfort, qui peut-être réussit sa mue de chanteur à acteur. Là, c'est peut-être Mamu Reva, en l'occurrence. mais c'est vrai qu'elle est tout à fait réussie. Oui, je suis d'accord sur le sujet. Ça suscite un certain intérêt en raison de son originalité. On ne voit pas tant que cela de longs métrages sur, en effet, le marché de l'art, les maquignonnages, les manœuvres. Je suis aussi d'accord avec ce qui a été dit sur les rapports entre l'ex-femme et Alex Lutz, parce que ces rapports sont faits à la fois de lassitude. En fait, ils ne se supportent plus, mais il y a quand même beaucoup de tendresse qui subsiste.
C'est très juste.
Oui, et de complicité.
Absolument, absolument. Et ça, c'est plutôt bien rendu. Et la narration, qui est tout de même vigoureuse et qui barre le passage à l'ennui. Mais dans quel genre faut-il ranger une telle fiction ? Il n'y a pas de dérision, on ne sourit pas un moment. Non. Donc, est-ce une comédie ? Il n'y a pas vraiment d'émotion non plus. Est-ce un drame ? La réalisation est quand même extrêmement passive. Elle n'est ni attractive ni imaginative. Vous n'avez aucune séquence qui se distingue du reste, même celle de la vente aux enchères. Et ça, c'est tout de même ennuyeux. L'épilogue perclus d'angélisme, offense tout réalisme. Ah oui, c'est pas l'argent qui compte, c'est quand même ce qu'on a au fond du cœur. Oui, d'accord. Il y a un coup de théâtre qui ne sert strictement à rien sur le rapprochement entre deux personnages qu'on n'attend pas du tout, et pourtant Pascal Bonitzer n'en fait rien. Et puis la figure de l'amant de la mère, qui est joué par Christophe Piaillou. Pardon, je ne vais pas écorcher son nom, Christophe Paou, qu'on avait vu dans L'Inconnu du Lac. Ici, là aussi, ce personnage ne sert strictement à rien. Donc on peut quand même s'étonner de tout cela. Se trouve ici dépeint un monde corseté que seule la vente parvient à libérer. Ainsi passe-t-on des sangles aux enchères.
Parfois, on se croit aux grosses têtes, je trouve, dans cette émission. Alors, on va passer à une affaire de principe. C'est un film d'Antoine Rimbaud. On est en 2012, on est à Bruxelles, et au sein de la Commission européenne, imaginez-vous que la démission du commissaire à la santé ouvre des dossiers qu'on voulait enterrer. C'est le lobby de Philippe Maurice qui a encore frappé. Et José Bové, tout fumeur qu'il est, décide de suivre l'enquête qui pourrait déstabiliser l'institution européenne elle-même. Et c'est une histoire vraie.
Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. Mr. Darling, did you accept 60 million euros to soften your director?
No. Never. In the back of the lobby, don't beat out of me.
My father fell into a trap. His directive was historic, a real blow to the tobacco industry.
J'ai là des infos. C'est peut-être bien commenté.
Monsieur le Président.
Écoutez, M. Dali n'a pas répondu aux critères du code de conduite des commissaires européens.
Mais quels critères exactement?
La commission doit rendre les comptes au Parlement. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde.
Qui êtes-vous, monsieur?
José Bové.
Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme.
Je peux te dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors, vraiment chier.
Hello, I'm José Bové. Welcome.
Hi. We are starting to believe that Pepe Tobacco Lopez may well have manipulated us.
On cherche un accord qui aurait été signé entre la Commission et Philippe Maurice.
Nous aussi, on aimerait bien y avoir accès. Ça fait des années qu'on demande.
Je crois que j'ai trouvé un truc sur le tabac.
Barroso is beyond our reach.
You don't need to look for the lobby when the lobby is inside.
Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires?
Oui.
S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi.
Oui.
Sorti juste avant les élections européennes, ça fait mal quand la Commission est une machine à broyer au milieu des prévarications et des corruptions. C'est quand même assez... ça fait froid dans le dos, Dominique.
Alors c'est une histoire vraie, en effet, comme vous l'avez dit, entourée de péripéties, réinventée tout de même, un film de pure politique, mais surtout le portrait de José Bové, on ne l'avait jamais vu au cinéma, et là, Willy Lanners lui donne la pipe, tout y est.
Ah oui.
Voilà, la pipe, la moustache, on le reconnaît, c'est bien lui. Cet idéalisme en bandoulière, c'est le Robin des Bois contre les lobbies à Bruxelles, il y a un petit peu cette idée-là. Cependant, il y a une chose qui est dans, c'est que dans toute la première partie, c'est assez technique, c'est assez didactique et finalement un peu ennuyeux. Moi, j'ai beaucoup pensé à ce que Costa-Gavras avait fait avec Adults in the Room.
Absolument.
Exactement, qui se passait déjà à Bruxelles, qui aurait dû être un film passionnant et qui était profondément ennuyeux parce que justement, on ne participait pas aux choses. J'ai beaucoup pensé à ça. Et alors, il y a le personnage, bien sûr, de Willy Lanners, qui est très bien, qui est omniprésent. Mais après, ça devient très compliqué, on ne suit pas tout. Il y a les réunions, il y a un décor froid et bleuté, celui de la Commission européenne. Et il n'y a qu'à la fin où le film commence à s'emballer, quand Willy Lanners, c'est-à-dire donc notre ami José Bové, décide de passer à l'acte, et d'une façon un petit peu brutale et assez drôle d'ailleurs, en jetant un papier par la fenêtre. Et là, c'est un épilogue salvateur, on a l'impression qu'il s'est... Là, il se passe enfin quelque chose, mais on a tout de même traîné pendant plus d'une heure un quart, sans tout poursuivre les péripéties. Voilà, c'est pas très efficace, mais c'est plutôt sympathique, c'est tout ce que je pourrais dire.
Marie-Noëlle ?
Alors moi, j'ai trouvé ça excellent, je dois dire. Et d'ailleurs, je ne m'étais pas du tout ennuyée au thriller de Costa-Gavras. Je trouve que on parle rarement de l'Europe, mais c'est un vrai sujet de l'Europe, de la construction, de la Commission, de toutes ces superstructures de l'Union européenne. Et c'est rare, et c'est un sujet important, et justement, très bien traité, je trouve, dans ces deux films, justement parce que, pour les mêmes raisons que Dominique, moi, j'éprouve un effet inverse. Mmh. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est obscur, opaque, labyrinthique, mais c'est précisément ça, le sujet. Et le sujet politique du film, c'est des représentants, que ce soit le ministre grec chez Costa-Gavras ou José Bové dans ce film-là, des représentants légitimes élus par le peuple qui se heurtent à de puissants technocrates totalement... la Barroso est le portrait au vitriol, hein, vraiment. Oui. Et José Bové, je dois dire, est un antagoniste de Barroso formidable. Oui. Formidable, parce que c'est un personnage de cinéma déjà en lui-même. Avec son côté, justement, représentant du peuple. Un peu dépnaillé, mais très au fait du droit, quand même.
Oui. Et des dossiers.
Des dossiers très travaillant ferme et enquêtant. Alors, c'est formidable de l'avoir en enquêteur policier et surtout politique. Parce que lui, ce qu'il défend, il se fiche complètement de cette histoire de lobby. Ce qui l'intéresse, c'est de défendre la démocratie. Mmh. Et en ce sens-là, le film est très bon politiquement, très juste et très nécessaire.
Ça fait peur, hein.
Oui, oui. Et très nécessaire parce que ça ouvre les yeux des spectateurs quand même sur ce qui se passe entre Parlement et Commission.
Et à 3 semaines des élections.
Et à 3 semaines des élections. Donc c'est excellent. Alors je trouve que le scénario est très bien écrit, très bien menée, et que la mise en scène est très rythmée, élégante. Moi, je ne me suis pas ennuyée une seconde. Très bonne utilisation des décors. Les décors, par exemple, l'extérieur de la Commission européenne qui ressemble à des grillages de prison, etc. Le Parlement européen beaucoup plus transparent. Il utilise très bien les lieux, les décors, ça bouge, on change. Ah non, moi, les dialogues sont très bons.
Bernard,
je trouve que c'est un excellent thriller politique.
Bernard, vous allez devoir départager nos petits camarades, mais je suis plutôt du côté de Marie-Noël.
Moi, je vais vous décevoir, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est intéressant. On ne s'ennuie pas grâce à la qualité de la narration. Là encore,
c'est énorme.
C'est vrai que c'est déjà beaucoup. Vous avez à la fois une ambition dans cette narration, mais une conviction. Et puis c'est vrai que l'intrigue est conçue comme une quête de vérité indignée, parce qu'on sent que les auteurs du film sont exaspérés par ce qu'il s'est passé avec à la fois le lobby du tabac et la complicité scandaleuse de l'Union européenne et surtout de son président. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt plaisant. L'interprétation, il n'y a rien à dire. Elle est aussi vive qu'expressive. Et justement, alors, grâce à ces acteurs de choix et à ce traitement adroit, ce film s'impose comme un réquisitoire à plusieurs voix contre la mauvaise foi.
Ah oui.
Parce qu'on voit les uns après les autres, ces autres institutions qui disent « Ah mais non, mais on voudrait bien savoir, ah mais on voudrait bien répondre aux questions. Tu parles, Charles ?» Alors qu'ils ont tout sauf envie de ça. Et ça, cette mauvaise foi qui devient insupportable assez rapidement, eh bien, le film la montre bien et de manière en effet très très limpide.
Et ça, c'est très contemporain. Oui. Parce que cette espèce de ras-le-bol qu'il y a en ce moment, on le voit, Bon, c'est et vrai, puis on le verra dans les urnes, mais...
Pas forcément, mais en tout cas, ça s'est montré de manière plaisante.
Oui.
Maintenant, il y a aussi, à l'inverse, des questions. La figure de José Bové, est-ce qu'elle n'est pas ici un petit peu trop magnifiée? Moi, j'avais jamais remarqué tant ou tant d'opiniâtreté, surtout d'intrépidité de sa part. D'ailleurs, sur la scène qu'évoquait Dominique, celle où il jette le dossier par la fenêtre, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? On est en droit d'en douter. On aurait aimé en savoir davantage sur les deux Arlésiennes film, l'avocat Petite et la fameuse Kimberley, qu'on cite beaucoup, beaucoup, mais qu'on ne voit jamais. Et puis, c'est un peu cousu de fil blanc. C'est vrai qu'il y a une impression globale qui fait qu'on ne se sent pas happé par cette enquête. On se dit, mais c'est quand même un peu artificiel. Et on ne se sent pas aussi happé par l'enquête, parce que tous ces enquêteurs, qui sont quand même très placides, très désabusés, très revenus tout, on se dit, bon, on ne va pas les déranger. Et on est un peu tenu à distance. Et sur le même sujet, il y avait le film de Michael Mann. Enfin, pas le même sujet, mais un sujet proche, qui était Révélation, avec Al Pacino et Russell Crowe, qui était quand même d'une autre intensité. Mais on peut dire qu'ici, lorsque la morale s'évanouit, jaillissent les hostilités. Savez-vous pourquoi, Christophe?
Mais non.
Parce que principe font les petites baïonnettes.
Et ben voilà, je vous avais dit que c'était les grosses têtes. Alors, jusqu'au bout du monde, maintenant, le troisième film de Motherson. Alors, on est en 1860... un émigré d'origine danoise qui s'appelle Olsen épouse une femme qui s'appelle Vivienne. Ils partent dans le Nevada et puis la guerre de sécession arrive. Holger s'engage dans l'armée et Vivienne est seule. Elle doit s'occuper de tout. Alors forcément, tous les hommes lui tournent autour. Il y a le maire qui est corrompu. Il y a un propriétaire terrien. Il y a le fils du maire qui est brutal. Et puis finalement, quand le mari rentre du front, Vivienne et lui ne sont plus les mêmes. Ils ne se reconnaissent plus. Ils doivent apprendre à revivre ensemble. On écoute la bande.
Alors, d'où est-ce que vous venez?
Ça, c'est une longue histoire.
Ça tombe bien, j'ai tout mon temps.
C'est ici?
Le bout du monde.
On dirait un repère de bandits.
Nous sommes une communauté tranquille. Et nous voulons le rester.
Foutaise. Je cherche un emploi.
Adjugé.
Pourquoi?
J'adore travailler et gagner mon propre argent.
On cherche des hommes d'honneur prêts à se battre pour sauver l'Union.
Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays.
Je veux faire ce qui est juste.
On a une vie tous les deux maintenant. Ce n'est que le début.
C'est un beau dimanche pour jardiner. Je peux peut-être vous aider.
Je peux y arriver seule.
Pour sûr. Je veux juste m'assurer que vous êtes bien rentré.
Je vais bien, Monsieur Jeffries. Comment était ta guerre ?
Pas comme je l'imaginais. Et la tienne ?
Va-t-il poser un problème ?
Je ne crois pas, non.
Cette ville est notre poule aux œufs d'or.
Je n'ai jamais voulu être sauvée.
Des chevaux, des coups de feu, 1860, des grandes étendues, c'est un western.
C'est un western, mais un western contemplatif. C'est pas un western habituel, c'est un western sur le sentiment d'abord, parce que là c'est l'histoire d'un homme aventurier, d'un homme... Tous les deux sont épris de liberté, c'est deux libertés qui vont se confronter et qui vont se fondre. Ça c'est le thème principal du film. Lui va partir en guerre, c'est un baroudeur, et elle veut rester indépendante, elle ne veut vraiment pas dépendre d'un homme, et pourtant ils s'aiment. Dans une maison loin de tout, qui est très symbolique de leur relation d'ailleurs, qui est perdue au milieu des montagnes comme ça. Maintenant, il est certain que Viggo Mortensen lui a voulu aussi céder au, disons, au cliché du western. Il y a le saloon qui est l'élément indispensable de tous les westerns, puis il y a un méchant. Très méchant.
Très méchant.
Qui est un salopard, finalement. Donc, il y a tout ça. Et avec cette trame, il arrive à cerner cette histoire d'amour, pas impossible, mais qui devait être improbable au départ et qui devient assez belle. Il faut signaler Vicky Cripps, l'actrice qui a un physique très particulier, qui est ni belle ni laide, mais qui porte quelque chose avec Benoît. Ils font un couple assez étonnant et assez touchant. Voilà, avec cette trame, il arrive à nous raconter l'Ouest à sa manière, en regardant aussi les paysages qui sont magnifiques. C'est beau, c'est un peu long, mais on s'attache tout de même aux interprètes et à l'histoire. Ces deux sauvages, donc, ils s'apprivoisent. Puis aussi, à la fin, un petit garçon qui va l'accompagner.
Marie-Noël.
Oui, c'est un western lyrique, très personnel, à la fois histoire d'amour et de solitude, qu'on commence par voir la rencontre du couple. Et puis, il part à la guerre et décide de partir, de s'engager dans la guerre de sécession. Elle reste seule et c'est à ce moment-là un beau portrait de femme forte dans un monde brutal et violent, d'un monde d'hommes. Elle surmonte cette violence par un courage quotidien et une sorte d'insolence et de générosité de cœur, une espèce de joie de vivre assez étonnante.
Vous êtes d'accord qu'il y a de belles images ?
Il y a plus que de belles images, il y a des thèmes très riches, bon. Il y a de très beaux plans, il y a des scènes prenantes, mais évidemment ça souffre un peu de... C'est le tempo qui est souvent... construction
Vous avez une minute trente.
Moi, je serais assez d'accord avec Marie-Noël, c'est-à-dire des images somptueuses avec des cascades impétueuses, un très très bon méchant qui renoue avec le Burt Lancaster de Veracruz, Henri Fonda dont il était une fois dans l'Ouest, Marlon Brando dans Missouri Briggs, Brian Dennehy dans Silverado ou Gene Hackman dans Impitoyable. Un très beau duel final, là aussi dans la tradition du western, et ça fait plaisir, et des seconds rôles qui existent. Mais en effet, malgré ses sims et ses crimes, pas de rythme, et c'est quand même très ennuyeux. Il y a un ennui boisé, qui est obstiné, qui ne tarde pas à s'imposer. Le scénario reste quand même courtois. Il y a deux belles scènes, le début, la fin, et puis sinon on est dans un ensemble vaporeux. Même la musique composée par Viggo Mortensen est à l'image de sa fiction, c'est-à-dire soignée et languide. Et que vient faire le chevalier ici, au bord du
rire ? C'est Jeanne d'Arc.
Oui, c'est totalement...
Parce qu'elle est canadienne-française.
Oui, mais c'est assez ridicule dans ce contexte. Comment ne pas regretter en plus que le metteur en scène n'ait pas délaissé par moments la plasticité au profit de l'intensité, en l'absence de Yul Brynner et de Steve McQueen, on aime en effet lorsque l'esthète perd ses nerfs.
Oui, Mais j'ai trouvé que ces images étaient somptueuses. Nous avons vu pour vous le tableau volé, nous avons vu Une affaire de principe et Jusqu'au bout du monde. Merci à tous les trois, merci à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpeche, Camille Meyer, Faustine pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain c'est l'Ascension. Alors je recevrai Isabelle Le Bourgeois pour Vivre avec l'irréparé, publié chez Albin Michel. Bonne journée à vous, profitez-en bien si vous êtes dans la nature en ce week-end ensoleillé. Prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.